Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
L'artiste présenté aujourd'hui s'appelle Marvin Pensgay Jr. Il a modifié son nom d'artiste, devenant Marvin Gaye, avec un E. Il est né le 2 avril 1939 à Washington. C'est le deuxième d'une famille de 4 enfants. Dès ses 4 ans, il chantait à l'église, son père l'accompagnait souvent au piano. Marvin Gaye et sa famille faisaient partie d'une église pentecôtiste connue sous le nom de Maison de Dieu. Il est important de souligner que son enfance fut très difficile. Son père se comportait comme un roi cruel et violent, et surtout avec Marvin. Sa mère essayait discrètement de le consoler et l'a même encouragé à pratiquer la musique. Et dès ses 11 ans, Marvin a été incité à devenir un artiste. Sa carrière fut d'abord celle d'un musicien de studio, puis de chanteur solo au sein de la Motown, dont il a contribué à façonner le son si caractéristique dans les années 60. Il en est même devenu le prince de Motown ou encore le prince de la soul. Avant d'aborder les titres majeurs de son répertoire, il faut préciser que ses enregistrements ultérieurs ont influencé plusieurs sous-genres du rhythm and blues contemporain. Malheureusement, son père a tué son fils le 1er avril 1984, la veille de ses 45 ans, après une énième dispute violente. Pour autant, la carrière de Marvin Gaye a décollé dès 1965, grâce à plusieurs singles réussis. Certains devenant des titres repris par nombre d'autres artistes, comme je vais vous le raconter.
Well, I'd be doggone if I wouldn't work all day.
Marvin Gaye a arrêté ses études dès le lycée et a rejoint l'USAF en 1956, surtout pour échapper à son père qui n'acceptait pas son avenir de chanteur. Mais il sera vite déçu par ce métier d'aviateur et étant condamné aux corvées toute la journée. Après son départ de l'USAF, Marvin Gaye et son copain, Rhys Palmer, ont formé un groupe vocal, The Marquis. Ils produisirent dans la région de Washington et travaillèrent pour Bob Diddley, qui les fait signer dans la filiale de Columbia, OK Records. Leur premier titre, What Up, coécrit d'ailleurs avec Bob Diddley, est un échec et les fera renvoyer du label. Marvin Gaye a commencé à composer pendant cette période, mais le groupe connaîtra un autre mentor, Harvey Fucker, qui les amène à Chicago où ils réussissent à rentrer dans Chess Records et à travailler pour Chuck Berry notamment. Berry Gordon de Motown Records, qui les a entendus accidentellement dans une fête locale, s'intéresse alors à eux, surtout à Marvin, et rachète leur contrat. On est en 1960, à Détroit, le groupe sera vite dissous et Marvin va signer avec la filiale Tamla de Motown. C'est à ce moment-là qu'il ajoute un E à son nom de famille pour imiter son idole Sam Cooke qui avait fait le même. On a dit aussi que c'était pour faire taire les rumeurs sur sa prétendue homosexualité et mettre aussi plus de distance entre lui et son père. Jusqu'en 1965, Marvin chante du jazz et évite de faire du rhythm and blues. Il va sortir plusieurs singles sans trop de succès. Batteur à l'occasion pour The Miracles, The Marvelettes ou le bluesman Jimmy Reed, il travaille aussi son jeu de scène mais refuse de prendre des cours de danse. En 1964, Marvin Gaye enregistre un album en duo à succès avec la chanteuse Mary Wells, intitulé Together. Le succès solo suivant de Marvin Gaye, How Sweet It Is To Be Loved By You, écrit pour lui par le trio Holland, Dozier, Holland, lui permettra d'apparaître dans un film, concert, télévisé The Tammy Show. C'est alors que sa carrière décolle vraiment, avec notamment la sortie de deux singles très réussis, I'll Be The Gun et Inside Peculiar, qui seront vendus à des millions d'exemplaires. C'est la première véritable percée pour lui. Voici d'ailleurs Inside Peculiar. n'est-ce pas particulier?
About you. Stay away too long and I can't do without you. Every chance you get you seem to hurt me more and more. But each hurt makes my love stronger than before. I know flowers grow from rain, but how can love grow from pain? That things you do and say are designed to make me blue. It's a doggone shame, my love for you makes all your lies seem true. If the truth makes love last longer, why do lies make my love stronger? Get my way. I know love can last for years, but how can love last through tears?
C'était Ain't That Particular par Marvin Gaye
sur OxyWeb Radio.
Puis Marvin Gaye va revenir aux ballades dérivées du jazz pour faire un album hommage à Nat King Cole, récemment décédé. Durant quelques années, Marvin a également enregistré des duos avec des chanteuses dont Mary Wells, Kim Weston, Tammy Terrell et Dana Ross. Ce fut à chaque fois des succès. Ainsi, après avoir enregistré It Takes Two avec Kim Weston, Marvin a commencé à travailler avec Tammy Terrell sur une série de duos principalement composés par Ashford et Simpson, des compositeurs locaux. Et cela va donner Ain't No Mountain High Enough, Your Precious Love, Ain't Nothing Like the Real Thing et You're All I Need to Get By, des succès à l'époque. En octobre 1967, Tammy Terrell s'effondre dans les bras de Marvin lors d'une représentation à Farmville, en Virginie. Tammy a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital et où il a été diagnostiqué un cancer et donc une tumeur maligne au cerveau. Ce diagnostic a mis fin à sa carrière sur scène et a sérieusement compromis ses prestations en studio. Elle a subi de multiples opérations pour enlever cette tumeur, mais toujours insuffisante. Marvin a été dévasté par la maladie de Terrell et a perdu ses illusions sur l'industrie du disque, vu le peu de considération donnée au soutien de cet artiste en souffrance. Elle va décéder après une longue descente aux enfers, sentimentalement d'abord, car son pseudo-fiancé, membre des Temptations, était déjà marié en fait. Il l'a frappé en plus, et physiquement, car son cancer l'a rendu aveugle et lui fit perdre ses cheveux. Vraiment une très triste fin pour elle. Mais voici It Takes Two, chanté en duo avec Kim Weston, autre chanteuse de Motown, qui en partit très vite pour tenter une nouvelle carrière sur d'autres labels, dont Stax et Motor City Records, des labels concurrents à Motown. À noter que Kim est toujours vivante, elle a 83 ans et est toujours active.
Make a dream come true. Just take two. One can have a broken heart living in misery.
Two can really ease the pain like a perfect remedy.
One can be alone in the crowd like an island, he's all alone.
Two can make it just to any place. Come true. Just take two. Just take two. Just take two.
Looking for a special treat.
Two can make that single move something really kind of sweet.
Yeah, one can take a walk in the moonlight thinking that it's really nice.
But two walking hand in hand is like adding just a pinch of spice.
Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. It takes two, baby. It takes two, baby, to make a dream come true.
C'était It Takes Two, on peut traduire par Il faut être deux, par Marvin Gaye et Kim Weston
sur OxyWeb Radio.
Tammy Terrell est décédée le 16 mars 1970 et bien sûr Marvin a assisté à ses funérailles. Aussi après cette période assez difficile, Marvin a estimé que le succès était quelque chose qu'il ne méritait pas et qu'il se sentait comme une marionnette dans les mains de Berry Gordon, patron de la Motown. Après une période de dépression, il voulut jouer dans une équipe de football professionnelle, les Lions de Détroit, où il s'est lié d'amitié avec Melfa et Lam. Barney, ce sont deux compositeurs qui avaient obtenu des disques d'or en chantant dans les chœurs pour différents artistes. Et notamment, on va les revoir au moment de What's Going On, le futur album de Marvin Gaye. Les Lions, de leur côté, ont finalement renoncé à inviter Marvin à s'essayer au football professionnel, de peur qu'il ne se blesse et que cela nuise à sa carrière artistique. Mais revenons à la fin de 1968, lorsque Marvin enregistre « I Heard It Through the Grapevine », qui va devenir son premier titre à atteindre la première place du Billboard Hot 100. Il a également atteint le sommet des charts dans bien d'autres pays, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est une chanson écrite par Norman Whitfield et Barry Strong pour Motown Records en 1966. Les Miracles, puis Gladys Knight and the Peeps, ont sorti tous deux les premières versions de la chanson en 1966 et 1967. La version de Gladys Knight fut numéro 1 du palmarès Billboard des singles Rhythm and Blues et numéro 2 du palmarès Billboard des singles de la pop. Et c'est le singles Motown le plus vendu à ce jour. La version de Marvin, elle, fut la deuxième à être enregistrée début 1967, mais la troisième à sortir. Elle fut placée sur son album de 1968, In the Groove, et j'ai bien sûr une pensée pour la formidable version de Creedence Clearwater Revival sur leur album de 1970, Cosmos Factory. Mais écoutons ce qu'on pourrait traduire par « Mon petit doigt me l'a dit ». C'était « I Heard It Through the Grapevine » par Marvin Gaye
sur OxyWeb Radio.
Bon, c'était l'occasion d'écouter un petit peu Tammy Terrell. Après ce grand succès que fut « I Heard It Through the Grapevine », Marvin Gaye a enchaîné avec « Too Busy Singing About My Baby » et « That's the Way Love Is », qui atteignirent chacun le top 10 du Billboard Hot 100 en 1969. Cette année-là, son album, MPG, est devenu son premier album numéro 1 dans les charts des albums Rhythm and Blues. Durant cette période, Marvin a produit et coécrit différentes chansons, dont « Baby, I'm for Real » et « The Bells », pour The Originals, un groupe qui chanta sur d'innombrables enregistrements de la Motown, mais qui n'ont jamais été crédités de ses chansons. That's the Way Love Is fut un single de Tamla, filiale de Motown, je le rappelle, datant de 1967. Il avait été enregistré par The Isley Brothers et produit par Norman Whitfield. Le single a ensuite été repris dans une version à succès en 1969, justement par Marvin Gaye. Il s'agissait de son troisième tube solo consécutif vendu à plus d'un million d'exemplaires, comme par exemple I Heard It Through the Grapevine et Too Busy Thinking About My Baby, qui avait été écrit là encore par Whitfield et Barry Strong. Whitfield a pris la version rythmée des Isla Brothers et l'a transformée en un titre de soul psychédélique plus lent. Comme pour le Grapevine, Marvin livre la chanson d'une manière émotionnellement travaillée, approchant un ton de prédicateur à travers lequel il dit à une femme d'oublier son amant maintenant qu'il est parti avec une autre. La chanson a culminé à la 7e place du palmarès des singles pop Billboard et a occupé la 2e place pendant 5 semaines sur le palmarès des singles soul en octobre 69. Elle a été retenue par les Temptations, dont la version se vendra finalement à 1 million d'exemplaires. Écoutons That's the way the love is, c'est la façon d'aimer.
How it is, my little love.
C'était That's the Way the Love Is par Marvin Gaye
sur OxyWeb Radio.
Comme je l'ai rapidement évoqué, Marvin a bâti sa musicalité d'abord en tant que batteur, effectuant des sessions de travail pendant son mandat avec Harvey Fucker au sein de Chess Records. Et ses premières années à la Motown, ça a été pareil. Puis, cette musicalité a évolué pour inclure le piano, les claviers, les synthétiseurs et l'orgue en général. Marvin Gaye a également utilisé des instruments de percussion tels que des cloches, des cymbales à main, des tambours et beaucoup d'autres. Plus tard, au fur et à mesure que sa carrière chez Motown se développait, Marvin chercha l'inspiration chez d'autres collègues du label tels que David Ruffin des Temptations et Lewis Tubbs des Four Tops, alors que leur voix plus granuleuse conduisait Marvin et son producteur à rechercher un son similaire dans des enregistrements tels que I Heard It Through the Grapevine, qu'on a entendu, et That's the Way Love Is, qui vient de passer. Voici un des titres de l'album Abraham, Martin and John, écrit en 1968 par Dick Dowler. Il a été enregistré pour la première fois par Dion, qui est un artiste assez connu à l'époque, dans une version qui a été un succès substantiel dans les charts nord-américains en 1968 et 1969. Des reprises quasi simultanées de Smokey Robinson et des Miracles sont apparues aussi dans les charts aux États-Unis en 1969. La version de Marvin est devenue une version à succès au Royaume-Uni notamment. La chanson elle-même est un hommage à la mémoire de quatre Américains assassinés, tous des icônes du changement social. Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy et Robert Kennedy. Il a été écrit en réponse à l'assassinat de Martin Luther King et de Robert Kennedy en avril et juin 1968. À noter la voix au perché, presque féminine, et l'accompagnement musical un peu étonnant chez Marvin, notamment avec beaucoup de violon.
Has anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? Oh, he freed a lot of people, but it seems a good die young. Yeah, I just looked around and he was gone. Has anybody here seen my old friend? Can you tell me where he's gone? You know, he freed a lot of people, but it seems the good die young. Yeah, I just looked around and he was gone. But it seems the good die young, yeah. I just looked around and he was gone. We'll be right back.
C'était Abraham, Martin and John par Marvin Gaye
sur OxyWeb Radio.
What's Going On est le 11e album studio de Marvin Gaye. Il est sorti le 21 mai 1971 par le label Tamla, toujours filiale de Motown Records. Enregistré entre 1970 et 1971, lors de sessions tenues à Hitsville, USA, le fameux bâtiment de la Motown, mais cela s'est passé aussi au Golden World et United Sound Studio, autre studio de Détroit, et également au Sound Factory à West Hollywood en Californie. C'était le premier album de Marvin à le créditer en tant que producteur et également à citer les membres du groupe des Funk Brothers qui étaient des musiciens de session de la Tamla Motown particulièrement connus. What's Going On est un album concept dont la plupart des chansons se succèdent selon un cycle à caractère social. Le récit est raconté du point de vue d'un vétéran du Vietnam retournant dans son pays d'origine pour être témoin de la haine, de la souffrance et de l'injustice dans les villes. Les paroles introspectives de Marvin Gaye explorent les thèmes de la toxicomanie, de la pauvreté et de la guerre du Vietnam. On lui attribue également la promotion de la sensibilisation aux problèmes écologiques qui, à l'époque, n'avaient pas encore émergé véritablement, notamment avec une chanson « Mercy, Mercy Me ». What's Going On, qui signifie « Que se passe-t-il », est resté dans le Billboard Top des albums pendant plus d'un an et est devenu le deuxième album numéro 1 de Marvin sur le palmarès Billboard de la Soul. Outre la chanson « What's Going On », dont je vais reparler, les titres principaux sont « Mercy, Mercy Me »,« The Ecology » et « Inner City Blues »,« Makes Me Wanna Holler ». Deux titres qui, en tant que single, ont atteint le top 10 du Hot 100. Faisant de Marvin Gaye le premier artiste solo masculin à placer 3 des 10 meilleurs singles du Hot 100 à partir d'un seul album. Voici « Inner City Blues »,« Make Me Wanna Holler », qu'on peut traduire par « Le blues du centre-ville »,« Ça me donnerait envie de hurler », qui a été écrit par Marvin Gaye et James Nix Jr. La chanson dépeint les ghettos et les situations économiques sombres des centres-villes américains, avec les effets émotionnels que cela peut procurer sur les habitants. Faites attention aux percussions, qui je trouve sont très subtiles.
Before we see it, you take it all. Everybody thinks we're wrong. Mother, who are they to judge us?
Mother, mother,
simply cause we wear our hair long.
Mother, mother,
Inner City Blues par Marvin Gaye
sur OxyWeb Radio.
Le 1er juin 1970, Marvin Gaye était retourné dans le bâtiment Eastville USA, qui servait de studio à la Motown, où il enregistra sa nouvelle composition de What's Going On, inspirée d'une idée de Reynaldo Hobie Benson, qui faisait partie des Four Tops. Il s'est inspiré, après avoir été témoin d'un acte de brutalité policière qui était survenu dans un rassemblement anti-guerre à Berkeley, en Californie. Hobie Benson a présenté la chanson, sans qu'elle ait encore de titre, à Marvin Gaye, qui a rajouté une nouvelle mélodie et révisé les paroles, les mettant plus à son goût. Hobie Benson a dit plus tard que Marvin avait peaufiné et enrichi la chanson. Et en fait, il avait ajouté des choses qui étaient plus conformes à la représentation d'un ghetto et semblaient plus naturelles, en fait. Ce qui la faisait ressembler plus à une histoire qu'à une chanson. En fait, Marvin s'était inspiré des mots sociaux commis aux États-Unis, citant les meubles de Watts, 1965. Au cours de laquelle il se demanda, avec le monde qui explose autour de moi, comment suis-je censé continuer à chanter des chansons d'amour ? Marvin Gaye a également été influencé par des conversations partagées entre lui et son frère, Frankie, qui était revenu après 3 ans de service au Vietnam, mais aussi de la mort de son cousin homonyme à Marvin Gaye, alors qu'il servait les troupes de marine. C'est Marvin Gaye qui l'a intitulé « Qu'est-ce qui se passe ?» What's going on? Et Marvin a d'abord pensé que la chanson serait appropriée pour The Originals, le groupe dont j'ai déjà parlé, mais Hobie Benson l'a convaincu de faire sa propre version. Et après avoir entendu la chanson, Berry Gordy, le directeur de la Motown, a refusé sa sortie, la trouvant trop politique pour la radio et craignant que le chanteur ne perde son public multiracial. Elle fut finalement sortie en 1971. Elle a atteint la première place des charts Rhythm and Blues en un mois, y restant 5 semaines, ainsi qu'au classement pop de Cashbox, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. What's Going On de Marvin Gaye, la version single,
sur OxyWeb Radio.
L'album What's Going On a également marqué une évolution dans le domaine de l'enregistrement en produisant une suite de chansons qui sont reliées afin de leur donner une meilleure cohérence au niveau de leur perception. Alors que jusque-là, les albums de Rhythm and Blues notamment, étaient une suite de chansons tout à fait distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Ce style de musique influencera les enregistrements d'artistes tels que Stevie Wonder et Barry White, faisant du format d'album concept une partie de la musique Rhythm and Blues des années 70. En quelque sorte, les albums gardent une espèce d'identité sonore particulière. et qui leur est propre. Les albums conceptuels sont généralement basés sur un thème ou une série de thèmes en rapport avec la thèse originale du concept de l'album. Par exemple, Let's Get It On a répété l'arrangement sous forme de suite de chansons, tout comme les albums ultérieurs de Marvin Gaye tels que I Want You, Hear My Dear et In Our Lifetime. Bien que Marvin Gaye n'ait pas été politiquement actif en dehors de sa musique, il est devenu une personnalité marquante du changement social et a inspiré, voire éduqué, de nombreuses personnes à travers son travail. Et on en arrive à l'album Let's Get It On, qui est son 13e album studio. Il est sorti en août 1973 par le label filiale toujours de Motown, Tamla Records. Les sessions d'enregistrement de l'album ont eu lieu de juin 70 à juillet 73 à Eastville, USA et Golden World Studio à Détroit, ainsi qu'à Eastville West à Los Angeles, une sorte de filiale du bâtiment de Détroit. En fait, il s'est servi de différentes incursions de Marvin Gaye dans le genre funk et Let's Get It On incorpore également des styles soul et doo-wop soft aux côtés de paroles sexuellement suggestives. Après le succès retentissant de son album précédent, socialement engagé, Let's Get It On a contribué à faire de Marvin Gaye une icône du sexe et à élargir encore son public, notamment avec ce titre, Let's Get It On, qui signifie « Allons-y ». C'était Let's Get It On par Marvin Gaye
sur OxyWeb Radio.
On en arrive au dernier album présenté dans cette histoire de Marvin Gaye. J'ai déjà parlé des relations particulières que Marvin a entretenues artistiquement s'entend avec des chanteuses du label Motown. En voici un autre exemple avec Dinah et Marvin, qui fut un album réalisé en duo par deux musiciens de la soul américaine, Dinah Ross et Marvin Gaye. L'album est sorti en octobre 1973, toujours sur la Motown, et les sessions d'enregistrement ont eu lieu entre 1971 et 1973 dans les studios d'Hollywood de la Motown, en Californie. Marvin Gaye et Dinah Ross étaient largement reconnus à l'époque comme deux des meilleurs interprètes de musique pop, comme on disait à l'époque. L'idée était née alors que Tammy Terrell venait de disparaître, plongeant Marvin dans une grave dépression. Heureusement, le succès de What's Going On et de Let's Get It On a relancé l'envie chez lui de produire des albums. Par ailleurs, depuis 1970, Dinah Ross tentait de lancer sa propre carrière solo après avoir quitté les Supremes. Or, sa reprise de Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye et Tammy Terrell devint un tube international. Et donc, il restait à convaincre Marvin d'enregistrer à nouveau avec une interprète féminine, ce qu'il ne voulait pas. Il se sentait maudit en enregistrant avec elle. En effet, les précédentes avaient soit brutalement quitté le label, Mary Wells et Kim Weston par exemple, ou avaient disparu, notamment Tammy Terrell. Et c'est vrai que le début des enregistrements fut compliqué entre les indisponibilités de Marvin et de Dinah, celle-ci mettant au monde son premier enfant, après beaucoup de soucis de santé. Mais ce fut finalement un projet bien abouti. Dinah et Marvin est devenu un succès multi-charts qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. L'album a été remasterisé depuis, en février 2001, avec 4 pistes bonus. Voici You Are My Everything, qu'on peut traduire par Tu es tout pour moi.
Oh darling, I wanted to be everything. Just like you, he walked like you do.
c'était You Are My Everything par Marvin Gaye et Diana Ross
sur OxyWeb Radio.
Je n'ai pas évoqué d'album live, mais Marvin a fait paraître pas mal et qui ont, notamment en 1974, remporté beaucoup de succès. Pour conclure, les principales influences musicales de Marvin Gaye étaient Ray Charles et Little Willie John pour les plus connus, sans oublier Frank Sinatra qui eut une influence majeure sur ce qu'il voulait être. Il a également été influencé par les styles vocaux de Nat King Cole. Plus tard, il s'est inspiré de David Ruffin, des Temptations, et de Levi Stubbs, des Four Tops, comme j'en ai déjà parlé. Pourtant, leur voix était plus granuleuse que la sienne, ce qui l'obligea à la faire évoluer à la fin des années 60 notamment. Marvin Gaye avait une gamme vocale de 4 octaves. Au début, chez Motown, il a chanté dans les gammes baryton et ténor. Puis il a changé de tonalité en prenant une voix plus rappeuse, et bien qu'il considérait que les ballades et le jazz étaient son âme de base, Eddie Holland, le compositeur, a déclaré que Marvin avait la capacité de prendre l'intonation du rock'n'roll, du blues, du rhythm and blues ou de n'importe quel autre type de style musical. C'était le chanteur le plus polyvalent qu'il ait connu. Le malheur de Marvin fut la relation vécue avec son père qui mena au drame le 1er avril 1984. Ce père qu'il avait initié et accompagné au piano, mais qui n'a jamais accepté son style de vie ni son art musical. Dommage. La semaine prochaine, je terminerai l'année en changeant de registre avec les Eagles et leur fabuleux album Hotel California.